Théologie en liberté. Présenté par Michel Jass.
Théologie en liberté. Donc, vous pouvez voir la série d'émissions qui ont été faites et vous pouvez les retrouver en podcast. Et nous avons interviewé, nous avons fait des études, on a présenté des sujets religieux, interreligieux, critiques, dogmatiques, en recul par rapport au discours habituel des religions. Mais aussi, nous avons des invités et des invités. Des églises chrétiennes et aussi des gens qui ont pris du recul, qui se disent protestants. On avait rencontré, il y a une émission qui a été faite avec quelqu'un qui se disait très protestant, et c'est vrai qu'il est d'une famille très protestante, mais il a pris du recul, il se dit non croyant aujourd'hui, mais il aime l'histoire du protestantisme et il n'arrive plus à croire. Bon. Et puis, on a des personnes qui ne sont pas d'origine protestante, qui ne sont pas d'origine très engagée, qui n'ont pas été élevées dans le christianisme et qui ont une parle. Par exemple, une fois, on a fait une émission sur un ami qui par la philosophie, se rapproche énormément du christianisme. Alors, cette fois-ci, nous rencontrons deux amis que je connais bien de l'Église protestante unie de Nîmes. Deux amis, Monique Dufoy et Colette Dotteville-Guibal. Bonjour à vous bonjour, toutes les deux. Voilà, alors vous allez vous présenter. Alors je crois que vous êtes nîmoise, bien sûr, vous connaissez bien l'église de Nîmes, vous avez fait beaucoup de bénévolat, mais aussi vous avez une origine montpelliéraine. C'est assez curieux pour pouvoir le souligner. Monique ?
Alors montpelliéraine, oui, montpelliéraine par mes parents. Mon père était né à Montpellier, ma mère était née à Paris. Ils se sont mariés et rencontrés et mariés à Montpellier. Mais je peux pas dire que je sois complètement moi-même montpelliéraine, parce que je suis née quelques jours après la déclaration de la guerre et je suis partie tout de suite à 4 mois avec ma mère rejoindre mon père qui était en Algérie et qui était administrateur de forêts. Voilà, pour une société qui était basée à Montpellier.
Et par ton mariage, es-tu devenue nîmoise ?
Et par mon mariage, je suis devenue nîmoise, puisque j'ai épousé Roland Dufoy, qui était lui bien de souche, mais aussi de Montpellier, parce qu'il était né à Montpellier.
Ah, c'est ça, oui. Voilà. Et Roland, qui a été mon cardiologue.
Voilà.
voilà, je connaissais bien. Oui. Aussi ses frères. Et puis, alors en fait, je pensais que tu étais plus montpelliéraine que ça, parce que tu es de la famille Varnery. Alors on dit à Montpellier, les protestants sont ou des Lénards, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Lénards, ou Castelnau. Et alors c'est Colette qui est d'origine Castelnau, par ta grand-mère ou mère.
Moi aussi. Moi
aussi. Toi aussi.
Oui. Ma grand-mère s'appelait Castelnau.
Ou Lénard, ou Castelnau, ou Varnery. Oui. On dit que les familles connues, alors qu'à Nîmes ou Quai de la Fontaine, on dit que c'est les familles nègres. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent nègres. Oui. Voilà. Alors, Colette, toi, tu es de nîmoise et montpelliéraine aussi ?
Je ne suis pas nîmoise. Mon père était montpelliérain. Et je tiens à dire que je m'appelle donc Dotteville-Guibal, qui sont les deux noms de mon mari Didier.
Oui.
Voilà.
Avec une origine, Dotteville, c'est de l'Ardèche.
Voilà.
Et
Guibal de Nîmes.
De Nîmes, oui. C'est ça. Oui. Mmh. Oui, tu avais dit que peut-être, je crois, du côté de la famille de ton mari, ils habitaient, il y a donc peut-être au 19e siècle ou au début du siècle, à l'endroit où il y a l'impérator aujourd'hui.
La famille Guibal, oui. Oui.
Ah voilà, c'est ça. Et en fait, mais du côté maternel, c'est l'Aveyron, le Tarn.
Du côté maternel, non, c'est ma mère était parisienne.
Ah oui.
Voilà. Donc c'est Paris.
Voilà, et alors donc, votre protestantisme, donc vous vous êtes connues toutes les deux en étant très actives dans la paroisse de l'Oratoire ici à Nîmes.
On est arrivé à peu près la même année avec Colette. Moi, je suis arrivée en 1970. Roland a posé sa plaque de cardiologue en en 70, le 4 juin 70. Et tu étais là déjà depuis un an, je crois, Colette.
Depuis, oui, 67, depuis l'année de notre mariage, oui.
Voilà, et je connaissais ton mari, puisque, voilà, il était montpelliérain, et que, voilà, je l'avais rencontré, mais je ne te connaissais pas.
Et alors là, vous avez été, les différents pasteurs de l'oratoire vous ont embauché pour faire de l'accueil, de la catéchèse. Oui. Et je sais que vous m'avez parlé des différents pasteurs du temple de l'oratoire, le pasteur Pelin, Grossi, Richard, Christine Lebeu. Et puis aujourd'hui, Colette, tu es active dans l'aumônerie des maisons de retraite avec le pasteur Thierry Azémar, qui est très dynamique.
Oui, oui, ça fait plusieurs années que je fais partie de l'équipe d'aumônerie parce que j'ai travaillé comme infirmière à la maison Lumière IP. Et je crois que quand j'ai arrêté, j'avais envie de continuer ce contact avec les personnes âgées. Donc, je me suis engagée dans l'aumônerie.
Ah oui.
Des maisons de retraite, simplement. Hein.
Oui, c'est ça, oui. Donc, il y a des moments, Thierry anime des cultes. Et oui. Puis, il y a toute une équipe autour qui va chercher les personnes dans les chambres. Et vous les connaissez, quoi. Vous les visitez, vous rencontrez les différentes personnes. Il y a tout un milieu très fraternel autour de l'annonce de la Bible et de la prière, avec toute cette équipe qui est là pour les entourer, les personnes âgées. Alors voilà, parlez-moi un peu aussi de votre protestantisme. Quand on dit le protestantisme et la foi, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez découvert relativement assez récemment, ou dans, comme vie d'épouse, de femme? Ou alors, est-ce que quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez reçu la foi chrétienne à un moment de la catéchèse, dans les mouvements de jeunesse, ou est-ce que vous avez eu une grand-mère qui faisait la prière avec vous quand vous étiez petite fille? Je ne sais pas, je vous pose des questions parce que je suis curieux, comme ancien pasteur retraité, de connaître aussi comment les gens ont été conduits à la foi. Monique.
Alors pour ma part, je suis protestante d'un père et d'une mère protestants. Donc je n'ai pas vécu à Montpellier, mais enfin que quelques années à partir de 15 ans. Mais j'ai passé les 15 premières années de ma vie en Algérie. Papa était exploitant forestier, donc on était pendant 4 ans, j'ai été dans la petite fille dans des forêts, et puis ensuite on s'est installé à Philippeville. Et papa était très engagé dans le monde, chrétien et protestant. Il a fait beaucoup de choses. Et moi-même, je crois que je n'ai pas de j'ai toujours eu. Tu demandais à un moment s'il y en avait des petites prières. Mais moi, je me souviens depuis toute petite, maman qui nous disait, alors on va faire la prière. Jésus, s'il te plaît, protège papa et maman. Et sois une petite fille bien sage et obéissante. Et merci mon Dieu. Voilà, c'était une petite prière que j'avais vraiment toute petite et que de temps en temps.
Que tu as conservée finalement.
J'ai conservé.
Tu comprends,
donc
oui.
je ne me rends pas compte de ne pas avoir été tout de suite chrétienne, si tu veux. Enfin, chrétienne.
Oui.
Dans le monde chrétien. Voilà.
Et toi, Colette, comment tu as débuté dans la foi ou dans le questionnement spirituel?
Alors moi, mes parents étaient protestants tous les deux, de famille protestante, donc automatiquement, j'ai été à l'école biblique, au catéchisme, dont je garde un très bon souvenir. Et puis, je n'ai pas fait de scoutisme, mais plus tard, j'ai fait plusieurs clubs de ce qu'on appelait les clubs d'enfants dans la région de Douai, où j'habitais, avec ma famille. Et puis, à Paris aussi, il y avait un club au foyer d'évangélisation d'Aubervilliers.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
Où on allait.
C'est ce qui t'a un peu marqué, un peu dans l'évolution spirituelle.
Oui. D'accord. Tout à fait, oui.
Ah oui. Oui. Plus que finalement l'influence des parents ou des grands-parents, quoi.
Oui.
Oui, parce qu'on est divers, et puis même dans une même famille, on ne ressent pas les choses de la même façon. Ou même à la sortie d'un culte, il y a quelqu'un qui dira « Oh, c'était formidable !» Et puis la personne d'à côté dira « Ben non, vous avez trouvé ça formidable, je trouve que le pasteur a très mal prêché.
» J'avais un grand-père paternel, très évangélique, et qui faisait un petit culte de maison tous les soirs.
Ah oui.
Alors, nous habitions le nord et nous venions seulement en vacances, donc c'était passager. Mais je me rappelle très bien de ces petits cultes à la fin du repas du soir auxquels il fallait qu'on assiste.
Ah oui. Oui. Et alors, même récemment, dans votre présence dans l'église et dans les œuvres, comment vous le vivez? Parce que vous avez connu l'évolution des paroisses nîmoises. Est-ce que tout a été tranquille pour vous dans ce protestantisme? Ou alors est-ce qu'au moment vous avez pris un peu de recul avant de revenir? Comment vous vous situez? Alors on commence par Monique et après Colette.
Par rapport à ma vie nîmoise,
oui,
tu voudrais.
Oui, comment les choses ont évolué on a parlé de l'enfance et maintenant...
J'ai fait un mariage protestant avec Roland Dufoy, qui était protestant lui aussi, d'une famille nîmoise. Après quelques années d'internat et de clinica, et deux enfants qui sont nés à ce moment-là, on s'est installés à Nîmes en 70. Et là, j'ai attendu mon troisième enfant tout de suite. Et j'ai été prise dans la mouvance réformée, de l'église réformée, par le pasteur Grossi. Je crois que c'est lui qui a été le premier qui m'a demandé, par exemple, de faire des visites dans mon quartier. Alors, j'allais avec mes enfants petits faire des visites. Très vite, je suis allée faire de la catéchèse.
Ah, c'est ça.
Voilà,
oui.
Très, très vite, là.
Oui.
Oui, très vite, et avec mes enfants petits. Et alors, Roland, lui, a été plutôt avec l'aumônerie. Et aussi...
comme médecin.
Voilà,
oui.
Comme médecin. Oui. Il a fait, je crois, ça pendant 25 ans. Et il aimait beaucoup ça. Et en fait, j'étais avec lui aussi dans toutes les réunions qu'on préparait et autres. Donc...
Oui, tu m'avais dit que Roland était même un chrétien protestant libéral, puisqu'il avait été influencé par le pasteur André. Et je l'ai dit, dimanche dernier, je présidais le culte à Uzès, et il y avait Françoise André, que vous connaissez, qui est la belle-fille du pasteur André.
Une cousine de Roland.
Ouais. Ah, qui est en plus une cousine de Roland. Voilà, oui. Mais en fait, donc, le pasteur André a été vraiment marqué, l'église de Nîmes, comme un des libéraux affirmés, etc., enfin, de l'époque.
Et Roland a eu son enfance à Nîmes, et ils étaient 20 communiants
chaque année.
Chaque année, au moins 20 et même plus.
Oui, oui. Ouais. Oui. Et alors, en fait, donc... comment vous... Est-ce que vous avez eu... alors, je pose la question maintenant à Colette. Colette, est-ce que vous avez vécu des moments de un peu où vous êtes éloigné de l'Église ou non? Ou c'est toujours été évident pour vous, l'Église protestante? Est-ce que vous avez eu plutôt des moments de doute, de remise en question, dogmatique ou...
Non, moi, je ne peux pas dire... Je suis donc j'ai fait en arrivant à Nîmes, j'ai fait assez vite de la catéchèse avec Monique, longtemps que Monique, mais puis ensuite on a été au conseil de paroisse toutes les deux ensemble. Alors
ah oui.
Monique aussi a été plus longtemps que moi. Et non, je peux pas dire que j'ai pris vraiment du recul, non.
Ah oui, parce que moi comme pasteur. J'ai plus reçu spirituellement un peu en dehors de l'Église, enfin dans des visites de personnes qui sont dans les moments de joie ou de peine, mais des gens qui étaient non pratiquants, enfin qui étaient protestants non pratiquants. Et j'ai cheminé spirituellement avec eux et j'ai reçu en leur apportant. Enfin, on reçoit quand on donne, quoi. Et ça me semble totalement évangélique.
Oui.
Mais alors que l'institution Église... Moi, les synodes, les conseils presbytéraux, les réunions d'organisation, parce qu'il y a un peu un club, un peu, on pourrait dire un club de pêche, d'animation des huguenots d'une ville. Et ça me pesait un peu. J'ai préféré l'élément plus existentiel et spirituel.
Oui, alors ça, moi, je l'ai trouvé dans mon travail quand j'étais. Tu vois, quand
j'étais
au Château Ciol.
Ah oui, 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 oui.
Avec la première directrice, Madeleine Vauconsent. Qui, elle, était très engagée aussi.
Oui.
Et puis, il y avait Simone Verdeil, qui était médecin.
Ah, d'accord.
Et Bertrand Perrier, tous les deux aussi engagés, donc.
Oui, alors cet élément spirituel, existentiel, vous l'avez trouvé dans ce cadre-là.
Moi, je l'ai trouvé dans ce cadre-là, oui.
Et alors, je sais qu'aujourd'hui, vous participez au groupe Évangile et Liberté, à la Maison du Protestantisme, ici à Nîmes. C'est une réunion mensuelle où on s'autorise de critiquer les positions traditionnelles du protestantisme, de savoir ce qu'on veut garder dans la foi chrétienne et puis ce qu'on est capable de vouloir abandonner, un peu comme disait le théologien du 19e siècle, Alexandre Vinet, disait « Là où l'erreur n'est pas libre, la vérité ne l'est pas non plus ». Alors, comment vous vous situez par rapport à ces personnes qui sont un peu peut-être aux frontières de l'Église, mais qui disent, qui se sentent protestants, bien sûr, mais un peu des protestants libéraux, en disant, nous, on veut être ouverts, on n'est pas d'accord avec tel dogme, on n'est pas d'accord avec trop d'écuménisme, ou ceci, ou cela.
Moi, j'aime beaucoup la discussion, justement. Alors, ce groupe-là... comment il s'appelait, Colette, celui qui a commencé Évangile et Liberté, c'était...
Didier Travier,
oui.
Alors Didier Travier avait, il y a une dizaine d'années,
oui.
ou 12 ans peut-être, avait demandé à Roland, au début, en lui disant... voilà, il se connaissait un peu, il savait un petit peu... Et il lui a demandé si ça ne serait pas intéressant de faire une réunion. Et Roland avait tout de suite... On s'était abonné à Évangile et Liberté.
Oui.
Et Roland, en effet, comme tu le disais tout à l'heure, était un petit peu plus, évangélique que moi.
Évangélique, liberté,
Libéral, plus libéral, c'est le mot que je cherchais.
Oui.
Plus libéral que moi. Et ça a été des réunions extrêmement intéressantes. Et,
oui.
Voilà. Maintenant, pour moi, personnellement, d'après tout ce que j'entends et qui me passionne aussi, je suis moins libérale que n'était Roland, ça, certainement.
C'est ça. Oui.
Je suis plus traditionnelle, avec un parcours plus, j'ai été présidente de mon conseil de paroisse pendant, je crois, 9 ans, j'ai fait de la catéchèse nationale et autres, enfin, je me suis impliquée dans la, voilà, un peu plus que de... Voilà, de... Enfin, je ne sais pas comment dire.
Non, mais c'est vrai que dans notre diversité du protestantisme, ouais, c'est ce qui est formidable dans le protestantisme, c'est qu'on peut être même très proche des catholiques, finalement, sur certains points. On a des chrétiens protestants qui sont très, très proches des catholiques, d'autres proches des évangéliques, et puis d'autres plutôt presque à la frontière de la libre pensée, finalement. Hein. Donc, il y a un pasteur à Wagner qui était à Paris qui disait je ne crois en rien. Il disait, ça choquait beaucoup les paroissiens, mais il disait mais j'espère tout. C'est-à-dire qu'en fait, une foi qui est plutôt de l'ordre d'un vouloir, d'une spiritualité, au-delà des apparences dogmatiques et des affirmations traditionnelles. Mais donc, il y a plusieurs... Et puis d'autres diront, non, il ne faut pas aller trop loin, il faut aussi respecter ce qu'on a en commun avec les autres chrétiens, les formulations qui ont été proposées au cours des siècles. Et toi, Colette, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à l'orientation plus libérale? Oui, tu as fait référence à ton grand-père qui était très évangélique.
Oui.
Alors... Moi aussi, j'ai eu une arrière-grand-mère très évangélique. Et elle priait pour ses descendants sans savoir que son arrière-petit-fils deviendrait pasteur libéral.
Alors, je suis mitigée, partagée. Vis-à-vis de certaines questions, je me sens plus libérale. Et puis j'aime quand même, il y a un côté des évangéliques que je trouve plus spontané,
oui,
et qui me déplaît pas.
Oui, tu vois
ce que je veux dire?
Oui, bien sûr, oui. Dans le comité Évangile Liberté, enfin le comité national, je me présentais toujours comme un pasteur libéral et évangélique à la fois, parce que j'ai mon itinéraire à naviguer. Tantôt, quand j'ai découvert à l'adolescence la foi, ben, j'étais plutôt évangélique. Mais théologiquement, j'ai toujours pensé de façon plus libérale. Et aujourd'hui, avec l'âge, je suis un peu assez traditionnaliste. Enfin, je regrette que dans le protestantisme, on abandonne facilement les habitudes, les rites. Mais tout est en débat dans le protestantisme. C'est ce qui est bien, mais fatigant aussi.
Mais intéressant.
Oui.
Mais intéressant. Une foi qui ne se remet pas en question, c'est difficile aussi.
Et oui, ce n'est pas une foi vivante si elle est
voilà, sûre. Je pense, je ne sais pas, je ne juge pas, mais je me dis, il faut quand même... remettre. Et moi, je trouve que les textes bibliques sont formidables parce que Le bon samaritain, tu le liras 10 fois, 15 fois, il y aura toujours quelque chose qui sera nouveau. Et qui
oui,
sera...
il y a plusieurs niveaux de lecture. Et puis, quelquefois dans la vie, on est plutôt attaché à telle compréhension. Puis, au moment, la vie nous conduit vers... après, souligner un autre passage.
Ouais.
Alors, écoutez, merci pour ce moment d'échange. On va terminer par un texte, Colette, que tu nous avais proposé et qui est de...
Alors, c'est un extrait du mémorial de Sainte-Hélène.
Ah oui.
Voilà, de Napoléon.
Napoléon,
donc,
oui.
Voilà, que m'avait remis une chère amie, là, qui était femme de pasteur et, voilà, qu'elle avait trouvé dans les papiers de son mari. Quelle différence entre la destinée prochaine de Napoléon et celle de Jésus-Christ, écrivait l'empereur. Avant même que je sois mort, mon œuvre est détruite, tandis que le Christ, mort depuis 18 siècles, est aussi vivant qu'au moment de son ministère. Loin d'avoir rien à craindre de la mort, il a compté sur la sienne. C'est le seul, oui le seul, qui a été plus vivant après sa mort que de son vivant. Et quant au temps, il n'a pas seulement respecté l'œuvre du Christ, il l'a grandie. En quelque endroit du monde que vous alliez, vous trouvez Jésus-Christ prêché, aimé, adoré. Quel est l'homme mort qui fait encore des conquêtes et dont les soldats courent encore à la victoire? Je suis encore vivant et pourtant mes armées m'ont oublié. Alexandre, César, Charlemagne, moi-même, nous avons fondé des empires, mais sur quoi avons-nous fait reposer notre pouvoir? Sur la force, tandis que Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour, et des milliers d'hommes donneraient joyeusement à cette heure même leur vie pour lui. Voilà un conquérant qui unit, qui incorpore à lui-même non pas une nation, mais l'humanité. Quel miracle!
Merci beaucoup. Alors, on était avec Napoléon, ce texte qui est assez étonnant, qui fait du bien à entendre. Et merci à toutes les deux, Monique et Colette, pour Théologie en liberté.